Vincent.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez encore nous faire découvrir quelqu'un.
Ouais, un très 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 grand musicien, très 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 grand bassiste. James Jamerson, c'est le bassiste, c'est le père de la basse moderne qui a officié chez Motown et qui a eu un destin et un parcours assez chaotique et assez tragique au final.
Bon, eh ben écoutez, j'imagine qu'on va l'entendre également pendant votre chronique. On vous écoute.
Musicien de génie, avec un sens du rythme et du groove incroyable, pilier du label légendaire Motown mais esprit tourmenté, James Jamerson, disparu il y a 30 ans, continue d'influencer tous les bassistes de la planète, quel que soit leur style. Né le 29 janvier 1938 à Edisto Island en Caroline du Sud, le jeune James faisait déjà danser les fourmis avec un bâton et un élastique planté dans une fourmilière. Après l'école, Jamerson et ses camarades se réunissaient dans une maison désaffectée où trônaient un piano et une contrebasse. C'est le début de l'apprentissage musical au sein du lycée de Northwestern. Parti pour une vie meilleure dans le Michigan, il débarque avec sa mère à Détroit en 1954. Trouvant des engagements dans des clubs de jazz, il rencontre Berry Gordy, un homme, ancien boxeur, débordant d'ambition et souhaitant créer une maison de disques. C'est l'acte de naissance de Motown Records, contraction de Motor & Town, et Jamerson est l'un des premiers engagés avec le batteur Benny Benjamin alias Papa Zita et le pianiste Joe Hunter en tant que musicien de studio. Ce noyau constitue les bases de l'orchestre maison, les Funk Brothers. La grande évolution majeure pour Jamerson est l'adoption de la basse Fender Precision au début de la décennie 1960. Restant fidèle à la contrebasse lors de ses premiers enregistrements, il passe progressivement à la basse électrique malgré le scepticisme de Lamont Dozier. « Je ne veux pas de cette merde », déclara-t-il avant de se raviser en entendant les qualités sonores de l'invention de M. Leo Fender. Un premier exemplaire lui fut offert par le jazzman Horace Shelley Roof, un modèle 1957 noir surnommé Black Beauty. On lui vola. Après un autre vol à déplorer, Jamerson trouve enfin celle qui ne le quittera plus, une Precision 1962, montée avec des cordes Labella à fort tirant et surnommée The Funk Machine. Dotée de mains surpuissantes, seul Jamerson pouvait jouer sa Funk Machine. Les rares bassistes ayant eu entre les mains sa basse disaient qu'elle était injouable. Une des spécificités du jeu de Jamerson est l'utilisation de l'index de la main droite pour ses lignes de basse. Cette technique a pour nom The Hook, le crochet, découlant directement de son passé de contrebassiste. À la différence de ses contemporains, James Jamerson rend vivantes ses basses par l'emploi de syncopes et de notes mortes, créant des lignes mélodiques puissantes d'une rare intensité, ce qui recadra définitivement le rôle de la basse dans la musique du XXe siècle. Malgré tout cet apport, les Funk Brothers restent dans l'ombre pour préserver le secret maison et ne sont jamais crédités sur les œuvres du label. De plus, Jamerson doit composer avec un alcoolisme latent qui fait de lui un musicien au caractère imprévisible. Lors de l'avènement de la soul psychédélique, mélange d'étonnant de rock et de soul, initié par le producteur Norman Whitfield, co-auteur d'œuvres magistrales comme Papa Was a Rolling Stone ou I Heard It Through the Grapevine dès 1968, les Funk Brothers font bien sûr partie de l'expérience. Et le message des chansons se durcit en rapport direct avec l'actualité de cette époque. Ségrégation raciale, émeute à Détroit et Los Angeles, assassinat du révérend Luther King. « l'apogée créative de James atteint son sommet lors de l'enregistrement de l'album What's Going On de Marvin Gaye, considéré comme le plus grand opus de soul music de tous les temps et sorti en 1971. Le bassiste est au top de sa forme, malgré quelques situations cocasses. La ligne de basse du morceau-titre de l'album a été jouée couchée sur le sol du studio, car Jamerson était ivre-mort, ne pouvait pas tenir sur son habituel tabouret. Pourtant, la belle épopée prend fin le jour où Motown déménage son quartier général à Los Angeles, laissant sur le carreau l'orchestre responsable de la griffe sonore de tous les hits. C'est une erreur, car James ne se sent pas à sa place et il n'apprécie pas du tout la direction musicale et artistique prise à ce moment-là. De plus, il refuse de moderniser son son. Paul Jackson Jr., bassiste de Herbie Hancock, lui proposa les cordes à filetage rond. Pour être à de la page, Jamerson déclina. Au cours de la décennie 1970, son talent est de moins en moins utilisé, mais on le retrouve sur des hits comme Rock the Boat des Hughes Corporation ou Boogie Fever des Silvers. Et il accompagnera en tournée des artistes comme Marvin Gaye ou Joan Baez. Avec la mode grandissante des bassistes adeptes du slapping, technique consistant à frapper les cordes avec son pouce, créant un effet percussif et du disco, James Jamerson et son style si novateur devient complètement obsolète et passé de mode. Le 16 mai 1983, pendant que Michael Jackson impressionne la planète avec son moonwalk lors du 25e anniversaire de la Motown, Jamerson assiste incognito à la cérémonie, sa place achetée au marché noir, car aucun Funk Brother n'a été invité, ce qui montre la gratitude de Berry Gordy. Il nous quitte le 2 août 1983, à l'âge de 45 ans, des suites d'une cirrhose, d'une déficience cardiaque et d'une pneumonie. Quoi qu'il en soit, tous les bassistes sont les enfants de James Jamerson.
Merci beaucoup Vincent pour cette, encore une fois, cette découverte pour moi. Je vois que vous avez mis à la fin de votre papier, vous ne l'avez pas dit, une petite discographie sélective.
Alors oui, c'est vraiment sélectif parce qu'il faut savoir que Jamerson, jusqu'en 1972,
il était,
on va dire, quasiment sur 95% des morceaux joués et distribués par le label.
Mais pas forcément crédité.
Non, alors ça, malheureusement, je crois que c'est inné, puisque à l'époque, des maisons de disques comme Stax aussi faisaient malheureusement la même chose. C'était pour conserver le secret maison. Hein.
Ouais, le secret maison, puis aussi pour pas qu'on leur pique leur bassiste. Parce qu'on savait pas où les contacter, en fait, c'est ça.
Oui, mais bon, au final, tous les Funk Brothers ont déjoué justement ce contrat d'exclusivité avec la Motown et on les retrouve à jouer avec des gens comme Jackie Wilson ou comme John Lee Hooker. Hein.
D'accord.
Ah oui.
Ah, très bien.
Oui, oui.
Donc, vous m'avez mis quelques. Il y a Marvin Gaye, il y a Stevie Wonder, il y a The Four Tops, il y a The Temptations. Tous ces gens-là ont joué avec votre homme du jour.
Eh ben, oui. C'est vraiment, c'est le père de la basse moderne. Hein. Les plus grands noms de la basse, quels qu'ils soient, que ce soit John Entwistle, John Paul Jones ou Paul McCartney, cite en influence première James Jamerson. C'est vraiment le père de la basse moderne. Hein. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Hein.
J'aime bien la petite touche que vous avez mise dans votre papier et pour le manche jamais nettoyé et la saleté. Jamerson disait que la saleté gardait le funk.
Exactement, oui. Alors ça, ce sont des lubies de musiciens, mais a priori, c'est ce qui faisait son son. Alors, est-ce que ça a eu une influence directe? Ça, je n'en sais rien du tout, mais je peux vous garantir que cet instrument, le bassiste Michael Henderson, qui a officié avec Miles Davis, a essayé une fois sa basse. Même lui, pourtant excellent bassiste, disait qu'il n'y avait strictement rien à faire, elle était vraiment injouable.
Sauf par lui.
Sauf par lui, mais vous n'imaginez pas, il avait une puissance colossale dans les mains. Mais vraiment, hein, il avait une force incroyable.
Et il savait jouer bourré.
Des choses, mais c'est hallucinant quoi, de jouer des lignes de basse. Déjà, les jouer, que ce soit debout ou assis, ça tient déjà du miracle parce que c'était sacrément dur.
Mais coucher à 4 grammes, c'est pas mal.
Là, faut le faire quand même. Hein. Là, faut le faire.
Mais merci en tout cas, Vincent, pour cette découverte.
Je vous en prie.
Et puis, écoutez de la musique. Voilà, c'est tout ce qu'on peut se dire. On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Et les morceaux que l'on écoutait en fil rouge, c'était Take a Stroll to Your Mind des Temptations. Et le morceau que l'on écoute actuellement, c'est Lalo Schifrin, le grand Lalo Schifrin, avec le thème de la série La planète des singes. Et alors, avec un casting de musiciens, franchement, ça fait très très mal. Il y a des très 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 grands monsieur comme Dennis Coffey, Melvin Regin aux guitares, Paul Humphrey et surtout le grand James Jamerson à la basse.
Super Vincent, vous êtes vraiment passionné, ça fait plaisir à entendre. Et à très bientôt. Voilà,
bientôt.
On se quitte, il est déjà 9h06 sur Allegri FM, il est temps de passer à la seconde heure de cette émission. Hey!